Je pense qu'il y a quelqu'un de compétent qui pourra prendre sa relève.
Merci d'avoir été avec nous, M. Marion. Je souhaite une bonne journée.
Merci, M. Lagasse.
Avant la fin de l'automne, je vais passer une dernière fin de semaine au camping, racler le terrain, vider la piscine, préparer la headset pour l'hiver, monter l'abri, magasiner l'équipement de hockey pour mon gars, prendre des cours de conduite pour ma fille, faire un tour au Saguenay, faire le ménage en cabanon, aller au port.
Vous êtes débordé cet automne. Laissez nos experts s'occuper de votre changement de pneus d'hiver. Planifiez votre rendez-vous en ligne avec les concessionnaires services certifiés Chevrolet Buick GMC Cadillac avant le 30 septembre et obtenez sans frais 3 mois d'accès au plan véhicule connecté OnStar ou de Sirius XM. Profitez de l'offre en prenant rendez-vous en ligne au Mon Service Certifié.
Elle est de retour, la célèbre promotion 2 pour 1 bétonnet chez votre détaillant par excellence, Tapis Montmagny. Projet de peinture? Voici une occasion en or pour économiser sans négliger sur la qualité. Faites vite! La promotion 2 pour 1 bétonnet est en vigueur du 3 au 23 septembre chez Tapis Montmagny, 391 Taché Est.
Avec François Tremblay, c'est Bonjour Montmagny.
L'émission tire à sa fin. J'aimerais remercier tous nos invités aujourd'hui. Ça inclut Maxime Demers, président du Festival de Loie Blanche. Hein. Ça débute, ça revient, fort heureusement, 52e édition. Ce sera sa 10e à titre de président du comité là qui est derrière l'événement. Donc, on a bien hâte d'y participer. Je vous rappelle, c'est du 10 au 14 octobre prochain. Il y a un déjeuner de lancement pour fêter, entre autres, l'arrivée de deux personnes importantes, à savoir Pampan et Pampino. Mathieu Sirois, qui était aussi des nôtres. Claude Harvey également, José Soucy, Paul Ouellette et Mme Fournier. Là-dessus, je vous laisse au bon soin de la chronique de Jonathan Trudeau pour ceux qui l'auraient manqué. À demain!
Salut Jonathan.
Salut Patrick.
Grosse nouvelle hier, on s'attendait à ce que M. Fitzgibbon ne finisse pas son mandat. Ça, c'était écrit dans le ciel en lettres fluo. Cependant, on s'attendait pas à ce qu'il démissionne hier. En fait, que l'annonce de sa démission survienne hier, ça a un peu scrappé le plan de communication des caquistes.
Oui, puis écoute, j'ai écouté évidemment religieusement ton entrevue avec lui hier. Tu as commencé l'entrevue avec ça, M. Oui. Fitzgibbon, qui a dit finalement, chercher un peu des faux fuyants.
Fait que quand j'aurai de quoi vous annoncer, je vais revenir.
Ben, c'est ça. Fait que tu comprends que quand la nouvelle est sortie hier, moi, mon premier réflexe, c'était de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'entrevue au 98.5 et ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Non. En fait, c'est que la décision s'était prise lundi, mais comme M. Fitzgibbon avait déjà booké quelques entrevues, ils ont décidé de faire les entrevues quand même et de procéder par la suite pour la chronologie des événements qui a déjà été évoquée. Mais je vais un petit peu plus loin. Il y a eu deux rencontres cet été, au mois d'août, entre François Legault, son chef de cabinet Martin Koskinen et Pierre Fitzgibbon pour parler de l'avenir de Pierre Fitzgibbon. Essentiellement, à ce moment-là, ce que le premier ministre a demandé à Pierre Fitzgibbon, c'est est-ce qu'il existe un scénario dans lequel tu termines ton mandat? Tu vas te rendre jusqu'à la fin du mandat. Pierre Fitzgibbon a demandé à prendre quelques semaines pour y penser. Dimanche, il est revenu avec sa réponse au premier ministre en disant « Je vais quitter en décembre ». Le premier ministre avait déjà pensé à un plan B. Et lundi, donc le lendemain, il a dit à Pierre Fitzgibbon, ben si c'est ça ta décision, je préfère que tu quittes maintenant parce que je suis pas à l'aise à ce que un ministre dont je connais la date de départ porte un dossier aussi important que celui qui s'en vient, le projet de loi sur l'avenir d'Hydro-Québec, sur l'énergie. Puis ce qu'on me dit, c'est que Pierre Fitzgibbon a toujours dit « Je ne veux pas être une distraction pour ce gouvernement-là. » Donc, il n'a pas été fâché, offusqué. Il aurait voulu se rendre jusqu'en décembre. Il a accepté la décision du premier ministre et va se retirer. Donc.
Mais, Jonathan, il y a quand même quelque chose d'étonnant parce que ce que le premier ministre aurait dit là, à M. Fitzgibbon, ou en tout cas ce qu'il pensait, « Je ne veux pas savoir qu'un ministre s'en va, qu'il y a une date genre en décembre. » Je comprends tout ça. Mais dans le cas de Pierre Fitzgibbon, à l'aube de l'étude du projet de loi, qui est un projet de loi majeur, qui engage là, le Québec pour des décennies à venir sur son avenir énergétique, me semble que cette règle-là aurait pas dû être appliquée.
Je vais te dire ceci. Ce que tu dis là, c'est mon premier réflexe. de me dire, ben voyons, tu sais, c'est si gros comme projet de loi, c'est un peu son bébé, on devrait le laisser accoucher finalement du bébé et tout ça, d'aller au bout. Mais, tu sais, dans mon travail, je parle à différentes personnes qui essaient d'influencer mon opinion, ma réflexion. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Dans ce cas-ci, je suis obligé de te dire que ce qu'on me dit tient la route. Parce que autant, on l'a dit, ça aurait été logique qu'il continue, autant que de dire, ben je savais que mon ministre s'en va alors qu'il va piloter un dossier aussi important que ça, ça crée un certain malaise, je peux le comprendre, mais j'ajoute à ça le fait que on n'a pas la garantie que ce projet de loi-là va être adopté en décembre. Donc là, est-ce que tu te ramasses dans un scénario où le ministre est pogné pour rester malgré sa volonté, ou tu changes de ministre en plein milieu du projet de loi? Puis le dernier élément que je vais t'ajouter, ça c'est une réflexion que je me faisais ce matin. Prends, parce que tu utilisais l'exemple de l'Agence Santé Québec. Tu as dit que Christian Dubé ne serait pas parti pendant l'étude ou avant l'étude du projet de loi de l'agence. C'est vrai qu'il y a des projets de loi qui sont évidemment essentiels, qui vont marquer là, t'sais, l'histoire du Québec et tout ça. Mais souvent, le véritable défi, c'est sa mise en application. Donc, si Christian Dubé fait adopter l'Agence Santé Québec, mais lève les feutres après, puis laisse ça à quelqu'un qui arrive là, qui ne connaît pas trop le dossier, c'est pas nécessairement d'y rendre service. Fait que j'aurais envie d'appliquer la même réflexion à ce projet de loi-là. Comme on sait que le défi, ça va être après ça, la réalisation de ça, les projets d'Hydro-Québec, la maintenance, les 150 milliards d'investissements, tu veux peut-être que la personne qui va mettre ça en œuvre se soit imprégnée, ait influencé, ait laissé sa couleur dans le cheminement parlementaire du projet de loi. Donc, tu comprends dans ce sens-là? Oui. Je pense que ça peut se défendre, mais. Je m'explique quand même mal le fait qu'il termine pas son mandat. Une fois qu'on a dit ça, qu'on parle du projet de loi et tout ça, je sais qu'on me dit... Tu sais, Pierre Fitzgibbon avait une relation amoureuse avec la politique, puis il a souvent réfléchi à s'en aller. Peu de gens s'attendaient à ce qu'il fasse son mandat au complet, mais il reste que... Tu sais, il restait 2 ans. Ça faisait même pas 2 ans qu'il était ministre de l'énergie en plus de l'économie, ce qui était un peu son rêve de jumeler les deux puis de mettre de l'avant une vision. Je comprends qu'on nous dit que, ah, tu sais, il va avoir 70 ans, veut faire autre chose et tout ça, mais c'est un bureau de travail qui aimait son travail, qui adorait son travail. Donc, je garde en tête quand même 2 éléments. Le fait qu'il se retrouvait souvent en porte-à-faux avec son premier ministre sur les frais, les tarifs d'hydroélectricité, l'opportunité éventuellement d'augmenter la taxe sur l'essence, etc., etc. On sentait que des fois, il y avait de la misère avec le discours gouvernemental. Et je vais ajouter ce que moi, j'appelle l'éléphant dans la pièce, qui n'a pas vraiment été soulevé depuis hier, mais j'en avais parlé avec Paul au cours de la dernière année. La relation avec Michael Sabia à la tête d'Hydro-Québec depuis son arrivée en poste à Hydro-Québec, c'était pas évident, là. On me parlait souvent de tensions au cours des derniers mois. Pas des divergences sur la vision, comme avec Sophie Brochu, mais plus à savoir qui le bosse entre les deux, tu comprends?
J'ai entendu la même chose il y a pas très longtemps. J'ai parlé avec quelqu'un qui a croisé le PM dans les coulisses d'un événement public il y a quelques semaines. Et semble-t-il que le PM le disait qu'il voulait l'entendre, que la relation entre M. Sabia et M. Fitzgibbon n'était pas au beau fixe. Disons que, si, comme disent les Anglais, il n'y avait pas d'amour perdu, semble-t-il, entre les deux.
Mais regarde, donc, même chose de mon côté, j'entends plusieurs personnes me parlent d'une relation assez houleuse, et quand tu parles à des sources officielles, que tu soumets ça, j'ai l'impression que ça crée un malaise. Tu sais, hier, à différentes sources, là, on m'a dit « on convient d'une relation distante ». Entre les deux hommes.
Mais on ne contredit pas.
Non, quelqu'un d'autre qui me dit...
On ne dit pas, hey, Jonathan, t'es dans le champ, ils vont à chasse au faisant ensemble.
Exactement. T'sais, fait que relation distante, on convient que les deux hommes ont un fort caractère. Dans un autre cas, on a carrément refusé de commenter. Écoute, je ne dis pas que Pierre Fitzgibbon s'en va à cause de ça, comprends-moi bien. Mais dans le contexte entourant son départ, je pense qu'on doit garder en tête que même s'il avait été de... Il, avec François Legault, il avait soumis Michael Sabia. C'était son choix, lui aussi. C'était pas évident entre les deux hommes.
OK, Jonathan, là, ça pose la question de sa succession. Hier, ce qui circulait, c'est qu'il y aurait un remaniement, mais là, c'est pas clair à savoir s'il y a un remaniement. Ça va probablement être plus, disons, mineur que ça.
Ben, en fait, j'ai envie de te dire, c'est clair. Ce ne sera pas un remaniement ministériel. On se garde cette opportunité-là pour le mois de janvier. Donc, on va parler d'ajustement au Conseil des ministres. Ceux qui pensaient voir le portefeuille de l'énergie, de l'économie être scindé en deux, ça n'arrivera pas. On veut garder ça ensemble et transmettre l'ensemble de ces responsabilités-là à une personne qui est déjà autour du Conseil, autour de la table du Conseil des ministres. Écoute, je vais me mouiller, Patrick, parce qu'il y a des noms qui circulent, puis depuis depuis tard hier soir, tôt ce matin, j'essayais de colliger des informations et tout ça, mais je suis prêt à te dire que, selon mes informations, tout indique que c'est Christine Fréchette qui sera nommée ministre de l'Économie et de l'Énergie. Je te dis tout indique parce que j'ai pas la confirmation officielle du bureau du premier ministre, mais en recoupant certaines informations, ma compréhension, c'est que c'est Christine Fréchette qui sera nommée. Elle ne gardera pas le portefeuille de l'immigration. Son portefeuille va être transféré à un autre ministre. Donc, il n'y aura pas de nouveaux joueurs autour de la table. Ses responsabilités vont être transférées à un autre ministre. J'ai pas l'info à savoir c'est qui, mais ce que je peux te dire, c'est quand je posais des questions sur le profil de la personne, on m'a dit la chose suivante. Des personnes qui méritent des promotions en raison de la qualité de leur travail, la compétence dans le travail de ministre. Or, s'il y a bien une personne qui s'est démarquée, je l'ai dit à de multiples reprises, c'est Christine Fréchette. Et elle a vraiment un profil économique. On l'associe beaucoup à l'immigration depuis sa nomination, mais maîtrise en relations internationales, baccalauréat en administration, spécialisation en économie au HEC, a été PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, directrice relations externes à Montréal International, membre du CA de plusieurs organisations à vocation économique. Donc, si ça s'avère, je vais garder un petit conditionnel, mais te dire que selon mes infos, tout indique que c'est elle. Si ça s'avère, je pense que le milieu économique va bien accueillir cette nomination-là.
Et c'est vrai qu'elle s'est illustrée, Mme Fréchette, par sa maîtrise des dossiers. OK, en terminant, si M. Fitzgibbon s'en va, ça veut dire que il y a un comté qui va devenir orphelin, le comté de Terrebonne. On va avoir une partielle. C'est une excellente nouvelle pour le PQ.
Écoute, il y a un élu péquiste qui m'a envoyé... cette petite boutade hier en après-midi.
Il n'y a pas beaucoup de suspects.
Non, c'est ça, mais c'est un je pense qu'il va s'assumer. Mais je ne l'aimerais pas, mais il s'assumerait. Qu'il m'a dit « On est de Terrebonne humeur
». Le slogan de la ville.
Voilà, on est de Terrebonne humeur. Écoute, évidemment, du côté du PQ, on voit ça comme une opportunité d'aller chercher un cinquième élu. Moi, j'avais deux noms qui circulaient. Celui de Stéphane Enfield, qui est le porte-parole extra-parlementaire en matière d'immigration, qui s'était présenté dans le comté voisin. Semble-t-il que déjà, il disait qu'il pouvait être intéressé. La presse parlait de l'actuel député bloquiste du comté. Mais moi, ce matin, j'ai une source péquiste qui m'a dit « Il y a deux certitudes, ce sera une femme et il n'y aura pas de transfuge bloquiste. » Donc, ça viendrait d'éliminer les deux personnes dont je te parle, mais reste à voir qui le Parti québécois pourrait présenter dans Terrebonne.
Merci, Jonathan. On se retrouve demain.
Tanné que ça écaille, que ça coule et que ça rouille, Noxor est LA solution. Enfin, des produits de qualité pour protéger vos structures ou toitures, toit plat, bardeaux et métalliques. Produits de qualité industrielle unique en Amérique du Nord. Offrez-vous la qualité et la tranquillité d'esprit pour protéger votre investissement. Les produits Noxor, synonyme de qualité, non disponible en quincaillerie. Commandez maintenant en ligne au www.noxor.ca. Livraison gratuite. Commande téléphonique acceptée 1-833-730-6819.
Promotion fin de saison Noxor. Jusqu'à 20% de rabais. Ça se passe maintenant.
Aujourd'hui, je vous parle de plancher de bois franc, car c'est un couvre-plancher qui est vraiment intemporel, qui est chaleureux, qui est malléable dans le temps, car on peut le sabler, le reteindre et le revernir. Et puis, disons que si on veut aller avec vraiment un look plus naturel, cocooning, le plancher de bois franc est vraiment le look par excellence. Et puis, c'est un couvre-plancher, comme je disais, qui est malléable parce que si dans 10 ans d'ici, je veux changer la couleur où il est très graffiné parce que j'avais un petit pitou sur le dessus qui faisait un peu la vie dure au plancher, ben je peux arriver le sabler et le revernir à ce moment-là, lui redonner sa jeunesse d'antan. Et puis, quand on parle de bois franc, quand on va dans des séquences, dans des planchers de bois franc de 3/4 de pouce d'épais, ben je peux faire quand même 3 sablages au moins sur ces planchers-là pour être capable d'aller lui donner un look différent. Évidemment, sur le marché, j'ai le bois franc, mais on parle du plancher d'ingénierie. Plancher d'ingénierie, lui, je vais pouvoir aller chercher des plus grandes planches larges pour donner vraiment un look un peu plus chalet, un look vraiment naturel qui est très tendance ça, ces années-ci. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts. S'il y a des vastes choix de couleurs et d'essences, je vous invite à venir nous voir pour pouvoir le constater.
On s'en était même pas parlé.
Pendant que je faisais de la confiture avec le gros panier de fraises qu'on avait acheté,
moi, je faisais congeler en petits morceaux les 2 douzaines de courgettes qu'on avait trouvées, mais tellement.